Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Nous fêtons ce mois-ci les 200 ans de la naissance de Flaubert. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser aux relations parfois explosives que l'écrivain entretenait avec son éditeur. Cet homme s'appelle Michel Lévy. C'est un autodidacte novateur qui s'est construit un véritable empire dans le monde du livre. En 1857, il publie le premier roman de l'écrivain, Madame Bovary. Flaubert entre alors avec fracas sur la scène littéraire. Michel Lévy assure ensuite la publication de Salammbô, puis de L'éducation sentimentale. Mais les relations se tendent pour finir par une rupture. Voilà donc l'histoire d'un duo haut en couleur, un couple explosif. C'est le titre du livre publié récemment par Yvan Leclerc et Jean-Yves Mollier, avec lequel nous nous trouvons. Bonjour Jean-Yves Mollier.
Bonjour.
Alors Jean-Yves Mollier, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Saclay, Versailles-Saint-Quentin. Vous vous intéressez de près à l'histoire de l'édition et vous avez déjà consacré un livre aux deux frères Lévy qui sont à l'origine de la maison d'édition bien connue aujourd'hui, Kalman Lévy. Pouvez-vous d'abord nous présenter ce fameux Michel qui est né la même année que Flaubert? C'est vraiment l'histoire d'un succès, son histoire.
Michel Lévy, c'est le dernier né d'une famille de 7 enfants. Il est né dans une famille de colporteurs juifs très pauvres. Ils ont quitté l'Alsace alors qu'il avait 5 ans. Ils sont venus à Paris. Il a connu l'école de la rue. Dès l'âge de 11 ans, il a dû travailler dans la rue. Et c'est peut-être là qu'il a acquis, au fond, cette perception des besoins et des goûts du public. Il a essayé de faire le conservatoire d'art dramatique. Il était très doué pour la scène, mais faute d'argent, il a dû aider ses parents. À l'âge de 15 ans, il ouvre un cabinet de lecture, une sorte de bibliothèque privée, très couru à l'époque parce qu'il y a peu de librairies. Et puis, à partir de 1841, il a 20 ans, il devient véritablement éditeur au sens où il achète des manuscrits et il publie des livres au nom des auteurs qui deviennent, en quelque sorte, ses auteurs. Et il choisit pour nom de sa maison d'édition Michel Lévy Frère. Ce qui indique bien qu'à côté de lui, il y a son frère Kalman et un troisième frère qui quittera l'entreprise assez vite. La maison Michel Lévy Frères va connaître de nombreux succès. Dès 1846, elle devient l'éditeur exclusif des œuvres complètes d'Alexandre Dumas-Père dans le petit format. Et au fond, c'est ça la révolution Michel Lévy. C'est-à-dire mettre le livre à la portée de tout le monde. Le livre coûtait cher, l'équivalent de 100 euros à peu près d'aujourd'hui. Il va décider de le faire passer à 5 euros. Alors ça prendra quelques années. C'est en 1855-1856 que lui, comme d'autres éditeurs, vont lancer des collections populaires à 1 franc de l'époque, 5 euros d'aujourd'hui.
Nous sommes alors en pleine révolution industrielle et le secteur du livre connaît lui aussi de profondes mutations. Et dans ce monde en recomposition, Michel Lévy progressivement va réussir à se tailler une sorte de part du lion.
Alors, Michel Lévy a essayé très rapidement d'obtenir dans ses catalogues les plus grands auteurs. Il est allé tirer Balzac par les frasques de son vêtement sur les marches d'un théâtre. Il est allé à Nohant pour obtenir de George Sand un premier manuscrit. Il est allé à Mâcon pour obtenir un autre manuscrit d'Alphonse de Lamartine. Et dès 1856, il repère dans la Revue de Paris la prépublication de ce roman qu'est Madame Bovary. Il n'attend pas la fin de cette prépublication. Il signe un contrat en décembre 1856 avec Flaubert et 4 mois plus tard, en avril 1857, il met à la disposition du public ce chef-d'œuvre, Madame Bovary, en 2 tomes, donc pour 2 fois 1 franc de l'époque. Pour 10 euros, on avait ce magnifique roman contemporain.
Dans cette affaire, Michel Lévy fait preuve de flair parce que Flaubert, à cette époque, n'est pas connu. C'est son premier roman publié et le procès qui va entourer la publication de cet ouvrage va donner une publicité immense à cette œuvre.
Résultat, 20 000 exemplaires vendus la première année, c'est évidemment considérable. 20 000 exemplaires de chaque tome, donc 40 000 exemplaires fabriqués et répandus dans le public. Et surtout, il faut imaginer bien plus de lecteurs, car à l'époque, on se prête les livres, ou bien les propriétaires de cabinets de lecture en achètent 10-15 exemplaires, et donc il y a de multiples lecteurs. Donc les 20 000 exemplaires vendus, ça correspond probablement à 10 fois plus de lecteurs cette année-là. Et puis, le livre va continuer, le roman va continuer à se vendre et 5 ans plus tard, il atteindra le seuil des 40 000 exemplaires. C'est donc un succès considérable pour l'époque. C'est l'équivalent, au fond, d'un prix Goncourt aujourd'hui à quelque chose près.
Alors, quelles sont les conditions pour Flaubert de son contrat avec Michel Lévy ?
Alors, Flaubert, comme Victor Hugo, et à la différence de Théophile Gautier, de Balzac ou de George Sand, ne signe jamais de contrat d'exclusivité. Il vend à chaque fois l'œuvre qu'il vient d'écrire à un éditeur en les mettant en quelque sorte en concurrence, du moins après Madame Bovary. Donc en 1862, il va négocier un nouveau contrat, ce sera de nouveau Michel Lévy qui l'obtiendra, pour une somme fixe. Ce qui veut dire qu'il n'est pas intéressé par la vente directe de ses œuvres. C'est une forme, en quelque sorte, de vente de la propriété littéraire qui correspond à un mode ancien, mais qui correspond à la perception de Flaubert. C'est fondamental pour lui. Aucun étalon monétaire ne peut rendre compte de la qualité d'une œuvre. Donc, au fond, que le livre soit vendu, la propriété littéraire soit vendue pour 1 franc ou pour 100 000 francs, ça n'a strictement aucune importance.
Nous avons beaucoup parlé de Michel Lévy, qui est un homme de commerce, un chef d'entreprise. Et en face, nous avons l'impression que Gustave Flaubert vit dans un tout autre monde. C'est un monde plus aristocratique, d'une certaine façon, où l'argent, le succès, vous l'avez dit, ne sont pas des valeurs très estimables.
Non, du tout. Flaubert est un tenant de ce qu'on appelle l'art pour l'art. Pour lui, la valeur suprême, c'est l'art. Et l'artiste doit passer sa vie à essayer de produire l'œuvre la plus belle, qu'il s'agisse d'une toile en peinture, d'une statue ou, naturellement, d'un roman ou d'un recueil de poésie ou encore d'une pièce de théâtre. Flaubert est extrêmement exigeant. Il met en moyenne 5 ans avant de terminer un roman, c'est-à-dire de le donner à lire à quelques amis choisis. Flaubert a une conception très étrange. Il considère que l'éditeur n'a pas à lire le livre. L'éditeur, au fond, reçoit le manuscrit, doit le porter à l'imprimerie et il se contentera de le mettre en vente. Évidemment, c'est une conception totalement erronée. Et on glisse là insensiblement vers cette espèce de fossé qui va séparer les deux hommes et qui deviendra un véritable divorce ultérieurement.
Parce que des tensions vont apparaître. Quels sont les sujets qui cristallisent les oppositions entre les deux hommes ?
Alors, en fait, ce n'est pas tellement le résultat des ventes de ses romans, même si Flaubert éprouvera une immense déception par l'échec de l'éducation sentimentale en 1869. Pour ma part, je le relativise. On est à quelques mois de l'entrée de la France dans une guerre, dans la guerre franco-prussienne. Par conséquent, nul ne peut savoir si, en l'absence d'une guerre, le roman, au fond, ne se serait pas vendu convenablement. Mais on ne réécrit pas l'histoire, c'est ainsi. Donc il y a, disons, un premier sujet de mécontentement. Flaubert, quelque part, doit en vouloir à son éditeur de ne pas avoir été capable de l'aider à conquérir de nouveau le public. Mais surtout, Flaubert, en 1871-72, propose et même demande à son éditeur d'éditer un recueil posthume de poésie de son ami Louis Bouilhet. Michel Lévy, en bon éditeur, sait qu'il n'y a pas de marché pour ce type de livre. Il accepte effectivement un compte admis, c'est Flaubert qui va payer l'essentiel des frais, mais Michel Lévy le mettra en vente. Mais il est impossible de vendre un tel recueil. Quand on l'ouvre aujourd'hui, en dehors de la préface de Flaubert, il n'y a quasiment rien à lire. Mais Flaubert considère que Louis Bouilhet était sa boussole littéraire, je le cite. Je dirais que Flaubert surestime la valeur littéraire de son ami Bouilhet. À partir du moment où Michel Lévy met en doute non seulement la qualité esthétique des œuvres de Bouilhet, mais au fond, le jugement littéraire de Flaubert par rapport à Bouilhet, alors là, c'est un véritable divorce et il va y avoir une explosion. J'ajouterai que cette explosion va prendre la forme d'une sorte de diatribe ou d'injure antisémite qui n'est pas à la gloire de Flaubert. Alors, mon collègue et ami Yvan Leclerc fait remarquer pourtant que Flaubert n'est pas antisémite au sens où, dans toute son œuvre et dans sa correspondance, on ne trouve qu'une seule cible de son antisémitisme, c'est malheureusement Michel Lévy.
Quelles sont les alternatives possibles pour un auteur à succès qui veut se séparer d'un éditeur aussi en vue que Michel Lévy ?
Oh, c'est d'en trouver un autre. Et effectivement, à partir de 1872-1873, Flaubert va passer chez Charpentier. Mais d'une certaine manière, il a trouvé un éditeur chez Charpentier fils, qui est un débutant, qui a besoin effectivement de remplir ses catalogues et donc qui ne sera pas difficile. On ne peut pas dire qu'il ait choisi un éditeur esthète, même si plus tard il se félicitera de la collaboration avec Charpentier, qu'il recevra d'ailleurs dans son ermitage à Croisset.
Le duo, le couple, comme vous le dites hein, dans le titre de votre livre, entre un écrivain et un éditeur, c'est presque un poncif de cette période de la seconde moitié du 19e siècle. D'ailleurs, avec Michel Lévy, il y a d'autres écrivains qui ont des difficultés, des discussions. On peut penser à Baudelaire, par exemple.
Oui, mais Baudelaire éprouvait un véritable sentiment, non pas d'amitié, mais d'estime pour Michel Lévy. Il disait « Il y a deux hommes en vous. Il y a l'homme d'affaires qui est hérissé comme un sauvage, je le cite, et il y a le parfait homme du monde. » Donc on voit bien que Baudelaire avait une très grande confiance dans le sens éditorial de Michel Lévy. Et au fond, Michel Lévy lui a rendu le plus bel hommage qui puisse être rendu à un écrivain. Baudelaire, à peine mort, Michel Lévy a acheté aux enchères la totalité de sa propriété littéraire et il n'a eu de cesse que de faire rééditer en 7 volumes la totalité des œuvres de Baudelaire, et y compris la 3e édition des Fleurs du Mal. Cette édition a été rééditée par Pierre Brunel cette année chez Calman Lévy. Cette édition, elle montre précisément quelle forme d'aide un éditeur peut apporter à un auteur, l'empêcher de mourir littérairement, c'est-à-dire continuer à avoir des lecteurs, faire en sorte que le purgatoire qui accompagne souvent la mort d'un écrivain soit le plus court possible.
Est-ce que le départ de Flaubert, cette rupture avec Michel Lévy, montre que finalement il n'a pas compris quelles étaient les évolutions du monde de l'édition, qu'il est resté dans une vision ancienne ?
Oui, mais je dirais que l'évolution du monde de l'édition n'intéressait pas Flaubert. Ça n'était pas son monde. Flaubert n'allait pas au kiosque pour acheter le journal. Flaubert n'entrait pas dans des librairies pour acheter des livres. Flaubert vivait en reclus, comme il le dit lui-même. Bien sûr, il venait de temps en temps à Paris, il lui est arrivé de faire des voyages, mais il ne s'intéressait guère au monde qui l'entourait, si ce n'est en tant qu'artiste pour essayer d'en rendre esthétiquement, littérairement, eh bien, une sorte de reflet le moins déformé possible. C'est pourquoi on a pu parler de réalisme, encore que le terme ne lui convenait pas à propos de son œuvre. Mais le système éditorial, ça ne l'intéressait pas. Il le connaissait tellement peu, je vous l'ai dit, qu'il était persuadé que les éditeurs ne lisaient jamais les manuscrits, ce qui naturellement ne résiste pas à l'examen.
Les droits d'auteur à l'époque existaient très peu, en tout cas pas dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Comment les auteurs étaient-ils protégés ?
Alors précisément, Michel Lévy est un des premiers, dès 1845, très tôt, à faire signer des contrats d'exclusivité à ses auteurs. Qu'est-ce que ça veut dire un contrat d'exclusivité ? Il achète l'œuvre qui est achevée, il achète toutes les œuvres à paraître dans les 5 ans ou dans les 10 ans, des contrats de 5 ans ou de 10 ans, et il associe l'auteur à la vente de ses livres. En moyenne, 10% de droits d'auteur, c'est-à-dire un avaloir, une somme immédiate, et puis ensuite, en proportion de la vente des livres, une rémunération. C'est exactement le système actuel. Donc en réalité, en choisissant de vendre au coup par coup ses œuvres, Flaubert s'est placé non pas dans la modernité, mais dans ce qu'on pourrait appeler l'archaïsme.
Nous allons peut-être finir en parlant de cette maison d'édition qui ne s'appelle pas finalement Michel Lévy. Comment ça se fait ?
Oh, tout simplement parce que Michel Lévy est mort jeune, à 57 ans, sans enfant. Son frère Calman travaillait avec lui, c'est donc lui qui a pris la succession. Calman a eu des enfants, les enfants de Calman ont eu des enfants, les petits-enfants ont eu des enfants, et donc jusqu'à la 4e génération, jusqu'en 1993, la maison Calman-Lévy est restée une entreprise familiale depuis 1993. C'est une filiale du groupe Hachette Lagardère Publishing, si l'on veut parler ainsi.
Et qui conserve des archives de cette époque-là.
D'extraordinaires archives sur lesquelles j'ai travaillé en 1982-84 quand j'ai publié Michel et Calman Lévy ou la naissance de l'édition moderne. Vous avez en effet les dossiers avec les lettres de Flaubert. Alors, les manuscrits de ces lettres ont été donnés à la Bibliothèque nationale. Donc, désormais, une partie des archives est à la Bibliothèque nationale, mais il y a encore de très belles archives avec, effectivement, des manuscrits, des autographes de nombreux écrivains.
Eh bien, un grand merci Jean-Yves Moulier de nous avoir permis de découvrir cette figure de Michel Lévy, l'éditeur de Gustave Flaubert, mais pas seulement, il a également publié Dumas, Georges Sand, de Baudelaire, nous en avons parlé. Je rappelle le titre de votre livre, Gustave Flaubert et Michel Lévy, un couple explosif, en compagnie d'Yvan Leclerc, qui est l'autre auteur avec vous, et c'est bien sûr aux éditions Calman Lévy.
Merci.